RCF.
Il est 7h30, l'heure du journal, présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous.
Lancement d'une grande concertation sur la violence des mineurs.
Pour son 100e jour à Matignon, Gabriel Attal prononcera un discours sur l'autorité au cœur de la République, tout à l'heure à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Il reviendra sur cette grande concertation sur la violence des mineurs, on en parle dans un instant. Dans l'actualité sociale, le plus grand squat de France a été évacué à Vitry-sur-Seine. Au sud de Paris, hier, environ 450 personnes vivaient dans les locaux désaffectés d'une entreprise. Qui sont ces personnes et que vont-elles devenir? On en parle dans ce journal. Et puis dans le massif des Vosges, la préfecture a donné son feu vert pour réintroduire le grand tétras. Cet oiseau rare, emblématique des forêts vosgiennes, est en voie de disparition.
Emmanuel Macron a demandé à Gabriel Attal de lancer une grande concertation sur la question de la violence des mineurs.
Pour son 100e jour à Matignon, le Premier ministre prononcera d'ailleurs un discours sur l'autorité au cœur de la République, tout à l'heure à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Il s'exprimera à 11h dans cette ville récemment marquée par la mort de Chemseddine, 15 ans passé à tabac près de son collège. La concertation sur les mineurs, elle, doit commencer dès aujourd'hui. Les détails de Marie-Lucie Walsh.
Alors que plusieurs faits divers qui impliquent des mineurs ont marqué l'actualité dernièrement, l'agression de Samara ou la mort de Chemseddine à Viry-Châtillon, le président de la République souhaite lancer cette concertation avec la même mobilisation d'ampleur que les mesures lancées contre les violences faites aux femmes. Quand l'horreur des féminicides a saisi la société, nous avons lancé le Grenelle des violences conjugales qui nous a permis de mettre tout le monde autour de la table et de produire des résultats majeurs sur lesquels nous travaillons aujourd'hui encore, martèle le président. Selon Emmanuel Macron, le surgissement de l'ultra-violence dans le quotidien chez des citoyens de plus en plus jeunes exige un travail de temps long et qui engage tous les acteurs. Le président souhaite associer à cette concertation les maires, associations, parents, professeurs.
Gabriel Attal défendra d'ailleurs l'ensemble de son action de Premier ministre lors d'une interview en soirée sur BFM TV. Gérald Darmanin, lui en déplacement en Guadeloupe, a demandé l'instauration pendant 2 mois d'un couvre-feu à partir de 20h pour les jeunes de moins de 18 ans à Pointe-à-Pitre afin de lutter contre une flambée de la délinquance. Des violences urbaines essentiellement nocturnes secouent plusieurs communes de ce département. Emmanuel Macron, qui s'est affiché hier pour la première fois à Bruxelles aux côtés de la candidate de son camp aux européennes, Valérie Ayé, qui peine à imprimer sa marque face à son rival d'extrême droite, Jordan Bardella. On s'organise, on a la bonne candidate et on a surtout les bonnes idées, a lancé le président hier.
Le gouvernement veut réduire le déficit public à 3% du PIB d'ici 2027.
Un plan de stabilité a été présenté hier en Conseil des ministres, mais la nouvelle trajectoire manque de crédibilité et de cohérence face à une situation des finances publiques préoccupante selon le Haut Conseil des finances publiques. Son président et président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a été auditionné hier par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Il est revenu sur le déficit de l'année dernière, le deuxième plus dégradé jamais enregistré après l'année 2020. Selon Pierre Moscovici, la trajectoire proposée par le gouvernement pour contenir ce déficit demandera un effort considérable et forcément impopulaire.
La pente était déjà escarpée, elle est désormais beaucoup plus raide, presque abrupte. Par ailleurs, le maintien d'un objectif de déficit public en dessous de 3 points de PIB en 2027 suppose un ajustement structurel massif entre 2023 et 2027 de 3,2 points de PIB sur 4 ans. Cet effort inédit s'appuierait quasi exclusivement sur un effort d'économie en dépenses. Le Conseil considère que cette prévision manque de crédibilité, alors qu'un tel effort en dépenses n'a jamais été réalisé par le passé. Sa documentation reste encore lacunaire et sa réalisation suppose la mise en place d'une gouvernance rigoureuse qui associe l'ensemble des acteurs concernés, État, collectivités locales, sécurité sociale, qui ne semble pas en place aujourd'hui. Ça suppose un coup d'accélérateur puissant. Nous le souhaitons, mais il reste à démontrer.
Et le FMI, le Fonds monétaire international, a d'ailleurs anticipé un déficit de 4,3% pour la France à l'horizon de 2027, très loin des 2,9% précisément sur lesquels table le gouvernement.
Au chapitre social, le plus grand squat de France a été évacué à Vitry-sur-Seine au sud de Paris hier.
Environ 450 personnes vivaient dans les locaux désaffectés d'une entreprise. Qui sont ces personnes et que vont-elles devenir? Les réponses de Pierre Allozy de Médecins du Monde. Son ONG intervenait régulièrement sur ce squat depuis près de 3 ans et il était présent lors de l'expulsion.
Il y avait 80% de personnes qui avaient des papiers, donc beaucoup qui étaient réfugiés statutaires, ça veut dire que bah ils ont obtenu un titre de séjour et la protection de la France. Il y avait pas mal de gens qui étaient en demande d'asile et surtout énormément de gens qui travaillent. Il y en a plein qui me disaient, mais Paul, je fais quoi? Je bosse à Vitry, mon emploi il est à 5 minutes du squat et là on me propose d'aller à un lieu pendant peut-être 2 semaines maximum qui est à 1h10 de Vitry-sur-Seine. Comment je fais? Et sinon on me propose une autre région qui est à plusieurs heures d'ici et moi je peux pas perdre mon travail, c'est déjà tellement dur quand on est étranger en situation régulière d'avoir un travail. C'était pas question pour eux de le perdre. Il y en a qui sont partis en région dans les fameux SAS régionaux. Donc il y a des gens qui sont à Bordeaux et qui sont à Orléans. Ces personnes-là, elles vont passer 3 semaines dans les SAS. Et après ces 3 semaines, nous, on estime qu'il y en a à peu près 40% qui vont se faire offrir des propositions et qu'il y en a 60% qui, en fait, vont être renvoyés vers le 115 dans ces régions. Donc remises à la rue dans des lieux où elles n'ont pas forcément le même réseau et donc potentiellement elles reviendront à Paris.
Pour le collectif d'associations Le Revers de la Médaille, cette expulsion est une preuve de plus, je cite, du nettoyage social en amont des JO.
Il est 7h36. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur la demande des Palestiniens de devenir un État.
Oui, un État membre, c'est une procédure déjà déposée en 2011, relancée par l'autorité palestinienne dans un contexte de guerre à Gaza. Mais il y a peu de chances que le Conseil de sécurité de l'ONU se positionne pour l'adhésion, comme l'explique Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques.
Il faudrait qu'il n'y ait aucun obstacle, aucun veto. On peut penser que la Russie et la Chine sont favorables. Il faudra voir quel sera le vote des 2 autres membres permanents européens, France et Royaume-Uni, mais le veto américain doit empêcher l'admission de la Palestine comme État membre. Parce qu'Israël est opposé à l'admission de la Palestine comme État membre, cela rendrait, disons, encore moins légitime et légale l'occupation de territoires palestiniens, et que sur la Palestine, on peut dire que les Américains suivent la position israélienne. Ils ont pris quelques distances par rapport à ce qui se passe à Gaza, mais pour l'instant, ce sont des distances purement verbales. Et les Américains continuent à soutenir stratégiquement, militairement et même économiquement Israël. Et donc, dans la mesure où on voit vraiment mal, surtout dans l'ambiance actuelle, Benjamin Netanyahou accepter que la Palestine rentre en majesté à l'ONU, les États-Unis devraient logiquement déposer leur veto.
Et depuis 2012, l'autorité palestinienne a le statut inférieur d'État non membre observateur à l'ONU. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, justement, a réaffirmé de son côté le droit de son pays à se protéger face aux appels de la communauté internationale qui tente malgré tout d'empêcher une riposte d'Israël contre l'Iran. La Chambre américaine des représentants doit voter samedi sur des enveloppes de plusieurs milliards de dollars. Les élus se prononceront sur 4 textes. Le premier prévoit 61 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Des propositions de loi distinctes débloquent également plus de 26 milliards de dollars pour soutenir Israël et plusieurs milliards pour Taïwan. Et puis à partir de demain, près d'1 milliard de personnes seront appelées aux urnes en Inde pour les élections législatives. Un défi logistique pour le pays surnommé la plus grande démocratie du monde. 6 semaines de vote, 1 million de bureaux installés. Selon les sondages, le président Narendra Modi pourrait briguer un 3e mandat.
Dans le massif des Vosges, la préfecture a donné son feu vert pour réintroduire le grand tétras.
Oui, cet oiseau rare, emblématique des forêts vosgiennes, est en voie de disparition en raison notamment du réchauffement climatique et de l'essor du tourisme. L'expérimentation qui s'étend sur 5 ans prévoit de prélever 40 d'oiseaux destinés à la chasse en Norvège et de les réintroduire dans les Vosges. Une bonne nouvelle pour la Ligue de protection des oiseaux, comme l'explique le président de la LPO en Alsace, Yves Muller.
Pour nous, c'était la dernière chance de conserver le grand tétras dans le massif vosgien. Mais il faut savoir que ce n'est qu'une première étape. Il ne suffit pas de relâcher des oiseaux, il faut que leur habitat, leur milieu de vie soit favorable. Une sylviculture favorable pour l'espèce. Alors, il y a bien quelques réserves naturelles, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un espace de vie favorable au grand tétras sur des bien plus grandes étendues. Deuxième chose, c'est la quiétude. C'est une espèce qui est très sensible au dérangement. Et un autre aspect important, c'est l'équilibre sylvocynégétique. Il y a des endroits où il y a une trop forte densité de cervidés et de sangliers. Et donc, il va falloir déjà arrêter l'agrainage des sangliers en altitude et puis limiter les populations des 2 espèces.
Et s'il est concluant, le dispositif sera ensuite renouvelé chaque année jusqu'en 2029. Et puis le sport, le foot, le Bayern Munich s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions en battant Arsenal 1-0. Le Real Madrid s'est qualifié pour les demi-finales en éliminant le tenant du titre, Manchester, au tir au but 4-3.
Merci beaucoup Lucie Rispal pour le journal de la rédaction de RCF.